Merci au groupe de Louange. Merci pour votre participation. Donc sans plus tarder, je vais prier pour notre pasteur Serge qui va nous porter le message en ce matin. Prions. Dieu notre Père, nous te savons vraiment fidèle, fidèle en tout, dans les moindres choses, dans les petites comme dans les grandes. Et nous voyons ta bonté, ta grâce envers chacun de nous. Nous voyons vraiment combien tu prends soin de chacun de nous. C'est parce qu'un jour, quelqu'un nous a parlé de toi, soit nous avons entendu parler de toi d'une façon ou d'une autre, qui fait que nous avons accepté ta parole. Nous voulons encore ce matin continuer à écouter ta parole pour être fortifié pour tous ceux qui te connaissent et être encouragé et être touché pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci encore de bénir ton serviteur ce matin, qui puisse nous parler de ta part. Tu donnes l'assurance qui vient de toi, au nom de Jésus. Amen.
Bonjour bien-aimés. Oui, le Seigneur est notre seul espoir. Le Seigneur est notre seul espoir. Dans la tempête, c'est lui qui est là, n'est-ce pas? Et il y a ce chant aussi qui dit que dans nos fêtes, c'est lui qui est là. Il est l'auteur de nos joies, car il est le Dieu qui bénit. Mais il sait que notre monde n'est pas fait que de joie, parce que c'est un monde pécheur. Et qu'à cause du péché, notre monde, notre humanité, notre vécu, notre existence va être des fois bousculée. Mais malgré tout, il est là, fidèle. Ce matin, j'aimerais nous encourager à regarder un sujet qui nous intéresse tous, car ce sujet parle de nous. Ce sujet parle de nous. On dit souvent que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et j'aimerais ce matin regarder ce thème avec vous. Le peuple de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? L'apôtre Paul nous en parle dans l'une de ses épîtres. Vous savez que ça fait quelques temps que pendant les réunions d'études bibliques les mardis et régulièrement les dimanches, quelques dimanches, j'étudie avec l'Église une série sur le thème « La vision de Dieu pour le monde ». Et nous avons commencé à regarder cette série depuis le livre de Genèse, n'est-ce pas ? Et nous allons aller jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons parcouru un certain nombre de textes bibliques pour nous éduquer à nouveau, car l'Église de Dieu a besoin de revenir dans la parole de Dieu pour solidifier, affermir notre foi. Surtout quand elle est bousculée, quand on entend mille et une choses, notre seule certitude, c'est que la parole de Dieu est vraie. Il nous faut revenir à cette parole. Amen. Le début de ce parcours, nous avons regardé ce qu'on appelait l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Comment Dieu a créé ce monde? Qu'est-ce qui s'y est passé? Et comment Dieu continue d'être au contrôle de ce monde? Nous avons vu que l'événement majeur après la création de l'être humain est le péché originel. Et ce péché a affecté toute la création de Dieu. Toute la création a été affectée par le péché. Et on voit tout de suite, dès après cette affectation, Dieu ne reste pas indifférent. Il prend l'initiative. C'est lui qui, malgré notre déchéance à notre ancêtre commun, c'est Dieu qui continue d'agir, de se manifester, de glorifier son nom. Et il va refaire encore ce qu'il sait faire de mieux, prendre l'initiative d'être là, au cœur de nos vies. Et Genèse chapitre 12, il va repartir avec Abraham, avec cette promesse qui reste une promesse majeure Il dit à Abraham, car en toi, non seulement je bénirai ta postérité, mais toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc il y a cette pensée très claire dans ce chapitre 12, versets 1 à 3. Et nous avons vu que tout au long des textes que nous avons vus depuis les Pentateuques, donc les cinq livres de Moïse, en passant par tous les livres historiques que nous avons vus dans l'Ancien Testament, jusqu'au dernier prophète, nous avons vu que cette promesse, elle est là. Et c'est elle qui continue d'être comme l'élément clé de toute cette histoire. Bien sûr, elle a un point focal dans la vie de David, le roi selon le cœur de Dieu. Et c'est à ce David, dans les livres de Samuel, que Dieu a fait cette promesse. Quand David a voulu bâtir une maison à Dieu, Dieu lui a dit, c'est pas à toi de me bâtir une maison, car je n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Et de plus, ta main est un peu entachée de sang. Donc tu ne bâtiras pas cette maison. Mais moi, je te bâtirai une postérité et ton trône sera un trône éternel. Alors que les hommes sont des hommes plutôt finis, Dieu dit de façon extraordinaire que le règne de David sera un règne éternel. Comment cela peut se faire? C'est presque impossible. Et c'est pour cela que nous avons vu, dès le ministère primé de Jésus, avec Jean le Baptiste, nous l'avons vu il y a quelques semaines dans cette étude biblique, Jean qui était ce prophète avant-gardiste, avant l'arrivée du Messie, lorsqu'il baptisait les gens de ce baptême de la repentance, qu'il a vu Jésus sur les berges de ce Jourdain, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus rentre dans l'eau et que Jean le baptiste le baptise, la Bible dit qu'au moment où ce acte majeur en train de s'accomplir, l'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, descend sous la forme d'une colombe et se pose sur Jésus. Une voix se fait entendre au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Trinité confirme le ministère. Et dès ce moment, Jésus va s'appeler le Fils de l'homme. Il va prendre ce titre, le Fils de l'homme. Et dans le Fils de l'homme, il entendra le fils de David, celui dont Dieu a dit que son trône serait un trône éternel. Et dans la controverse que Jésus va avoir avec ses contradicteurs, ils vont lui dire, mais c'est David, David a dit que Dieu lui donnera un trône. Il dit, mais lisez bien, même David lui-même dans ses psaumes, il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Et Jésus dit, mais comment David peut parler à la troisième personne de singulier, parlant de lui-même. David ne parlait pas de lui. Il parlait de moi. Jésus est le Messie, celui que nous attendions. Et c'est Jésus qui inaugure le royaume de Dieu. Et c'est lui dont toutes ces prophéties de l'Ancien Testament parlaient. C'est pour cela qu'il a pu dire, tout est accompli. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent en lui. Depuis celle de Genèse chapitre 12 en Abraham, en fait, dans Genèse chapitre 12, on parlait déjà de Jésus. Amen. Alors l'apôtre Paul va nous expliquer des choses formidables que nous savons, mais parfois il me semble que nous nous mélangeons un peu les pinceaux. Et peut-être c'est bien qu'ensemble nous puissions nous redire un certain nombre de choses. Ça, vous le saviez, n'est-ce pas? Vous saviez que vous faites partie du peuple de Dieu. Oui, amen, alléluia. Mais des fois, je me demande si on sait ce que ça veut dire. Surtout dans ces temps où nous sommes dans une actualité avec un espace géographique dont je tairai le nom. Et je vois que les idées parfois ne sont pas très claires sur cette affaire. Nous sommes le peuple de Dieu. Et que peut-être qu'il est bon que nous redisions ensemble en relisant la parole de Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Merci pour cet effort de la technique. Ça, c'est ce que je venais de vous expliquer. C'est les études que nous sommes en train de faire. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il faut que tu insistes pour que les gens viennent mardi. Les frères, je ne peux pas insister au-delà de la force que j'ai. Et je ne peux pas venir vous chercher à la maison, tout en sachant que vos contraintes sont parfois difficiles. Mais n'empêche, nous, on fait l'effort d'être là pour enseigner, pour étudier avec l'Église de Dieu. Si vous êtes là, ça vous enrichit aussi. C'est vrai que nous sommes des pédagogues et que nous sommes invités à redire les choses. Mais des fois, il faut que le peuple de Dieu soit attentif. Nous avons commencé cette série avant le 7 octobre. Nous avons commencé cette série avant le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est l'événement qui s'est passé au Proche-Orient. Mais nous étions déjà en train d'étudier pour nous redire qui nous sommes, pour visiter notre histoire. Des fois, nous autres, on n'est pas des prophètes, parce qu'on le revendique pas, n'est-ce pas? Donc, on est des pasteurs ordinaires, et quand nous disons les choses, parfois, ça passe tellement inaperçu. Je me souviens que nous avions commencé à étudier l'Apocalypse dans des textes précis quand le Covid s'est invité dans notre monde. Et nous étions en train de regarder les plaies dans l'Apocalypse. Ce n'était pas une coïncidence. Et nous avons continué cette série pendant que nous étions confinés. Mes bien-aimés, nous sommes des êtres ordinaires. Mais quand Dieu nous donne une perspective d'étude biblique, je pense qu'il sait pourquoi, parce que son Église en a besoin. Donc c'est à chacun de nous d'être attentif, de recueillir les éléments que nous donnons en prédication, en étude biblique, et d'aller lui-même aussi plonger son regard dans la parole pour s'enraciner en son Dieu. Amen. Vas-y, Eric. Le texte que je vous propose ce matin, c'est Éphésiens chapitre 2. On va lire tout ce texte. Ce texte est un texte fondateur de ce que nous sommes en tant que peuple de Dieu. C'est dans cette seule épître que l'apôtre Paul prend le temps de dire cette parole. Elle est unique, cette parole, dans tout l'évangile, le Nouveau Testament. On retrouve quelques réminiscences dans l'épître aux Colossiens, mais c'est là que l'apôtre Paul dit ce que nous entendons dans ce deuxième chapitre de l'épître aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre nature, votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Verset 4. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche de bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Verset 11. C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur le corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois? En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étranger aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Sans expérience, sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur d'eux qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire la loi de Moïse, dans ses commandements et dans ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis à lui en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, avec Dieu, et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Alléluia. Verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction se lève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alléluia! On peut s'arrêter là pour cette prédication, n'est-ce pas? Le texte lui-même, il dit tout. Ce texte dit tout, n'est-ce pas, les bien-aimés? Vas-y, s'il te plaît. Regardons de plus près. Les 10 premiers versets nous parlent de notre position individuelle. Nous avions une ancienne position. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos péchés. Nous tous qui sommes là, autrefois, le autrefois, c'est avant de connaître Jésus. Enfin, c'est nous tous qui sommes là, nous l'avons connu. Si tu n'as pas encore connu Jésus, tu es dans le autrefois. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. C'est ça que ce texte dit. Et il y a une nouvelle position. Cette nouvelle position, c'est « Mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. » Alléluia. Gloire à Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Ce autrefois est un autrefois triste, tragique, dangereux. Parce que ce autrefois se termine en disant « Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu. » C'est le verset 3 qui se termine comme ça. Si nous demeurons dans cette ancienne position, nous sommes destinés à subir la colère de Dieu. Mais bien aimé, le bon Dieu, il n'existe pas. Je suis désolé. L'expression « le bon Dieu » est une mauvaise expression. Parce que le bon Dieu, il n'existe pas. Cette expression-là veut dire que de toutes les façons, Dieu sauvera tout le monde. C'est ça que, généralement, quand on dit « le bon Dieu », c'est ce qu'on veut dire. On dit « de toutes les façons, il est bon, il ne peut pas, il ne pourra jamais, il ne le fera jamais, il ne jugera pas. » Or, c'est un Dieu saint et c'est un Dieu juste. Et parce qu'il est juste, il dit « je ne prends pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent, car je suis un Dieu juste. » Dieu est bon, oui, mais le bon Dieu, il n'existe pas. Et c'est pour cela qu'il dit dans ce texte, mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts. C'est lui qui encore prend l'initiative de venir nous chercher. Nos vies comptent pour Dieu dans le autrefois. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est Dieu qui nous cherche chaque jour pour nous sauver. Comme Jésus lui-même l'a dit dans la parabole du fils prodigue. Ce père qui, chaque jour, sortait pour voir si son fils qui était perdu revenait à la maison. L'initiative appartient toujours à Dieu. Notre nouvelle position, celle-là, elle est en Christ. C'est en Christ désormais. Et ce texte, il est beau, il est simple, mais il est concret. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il dit, ce n'est pas des œuvres que vous aurez pratiquées. Il dira dans l'une des épîtres aux Romains, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul. C'est-à-dire, quel que soit les actes qu'un homme peut poser, quelles que soient ses bonnes intentions dans sa tête, il est disqualifié. Il ne peut pas se sauver lui-même. C'est faux, ça n'existe pas, un homme qui peut se sauver lui-même. Parce que nous sommes héritiers, malheureusement, du péché originel. Nous sommes atteints, dès notre naissance, par le péché que notre ancêtre Adam a commis. Parce que nous sommes de sa race. Et quand nous héritons les gènes de quelqu'un, nous héritons des fois. Et ça, c'est tellement patent spirituellement, nous avons hérité de ce péché. Donc, il nous disqualifie tous. En plus, nous ajoutons nos propres péchés dès notre enfance. Donc, nous sommes disqualifiés. Les enfants sont innocents du fait qu'ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font. C'est ça qu'on appelle l'innocence d'un enfant. C'est pas qu'il ne fait pas le mal. C'est parce qu'à cet âge-là, il n'est pas conscient des actes qu'il pose. Mais des fois, on a tous été enfants. Hein. Des fois, des actes qu'on pose, waouh. Les parents sont ébahis. On est obligé de tout mettre en hauteur. Parce que les mains à cet âge-là traînent un peu partout. Parce qu'il y a cette curiosité de découvrir. Bref, cela montre que nous sommes tous disqualifiés. Mais Dieu, dans sa grâce, il vient nous chercher. Ce n'est pas nos œuvres, c'est lui qui le fait. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ pose cet acte il y a 2000 ans, ça vaut pour toute l'éternité. Il a démontré dans cet acte de son Fils, pour toute l'éternité, son amour pour les hommes. Il n'a pas pris un homme pour payer le prix de notre péché. Il s'est fait homme lui-même. Pour venir payer le prix de ce que nous, nous avons commis. La Bible dit, encore on pourrait mourir pour quelqu'un de juste. Mais nous, on était tous coupables et malgré ça, il a accepté de venir mourir pour les coupables. Ça s'appelle la substitution pénale. Il a pris la peine que nous encourions, il a pris la sanction qui était la nôtre. Car par ses meurtrissures, il nous a donné la délivrance. C'est en lui que nous sommes sauvés. Bien-aimé, cette position-là, rappelle-t'en toi toujours. Ce n'est pas toi qui l'as acquise, c'est Dieu qui l'a acquise pour toi en Jésus-Christ. En cela, sois reconnaissant à Dieu. En cela, dis merci au Seigneur, parce que c'est lui qui est venu te chercher. C'est lui qui est venu te donner une opportunité, une occasion d'entendre sa voix et de te détourner de cette colère de Dieu. Amen. Vas-y, s'il te plaît. De cette nouvelle position individuelle, nous rentrons dans une nouvelle position commune, collective, massive. L'Église, le peuple de Dieu. L'Église, le peuple de Dieu. Il nous parle à nous. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a quelques-uns qui ont des ascendants juifs. Si ? Non ? Si. Non. Ah, oui, d'accord. Donc, il y a un qui a un ascendant juif. Donc, lui, il fait partie de ceux qu'on appelle les circoncis. Mais à part ça, nous autres, là, nous tous qui sommes là, nous sommes les goïnes. C'est-à-dire, nous sommes les nations. Dans la pensée juive, dans la religion juive, il y a deux entités dans le monde, dans l'humanité. Il y a les juifs et il y a les non-juifs. C'est tout. C'est binaire. Soit tu es juif, soit tu n'es pas juif. Et si tu es non juif, tu n'es pas héritier des promesses d'Abraham. Et on t'appelle Goïn, nation. Et même dans le temple, même quand tu es celui qu'on appelle un prosélyte, tu n'as pas les mêmes droits qu'un juif, parce qu'il y a des aspects, il y a des parties du temple auxquelles tu n'as pas accès. Et si tu t'y aventures, c'est la mort absolue. Il n'y a que les Juifs qui ont ce privilège. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit à partir du verset 11. C'est pourquoi vous qui portiez dans votre corps, parce que ces choses-là, dans la pensée ancienne, elle est liée à notre nature humaine. Donc à la filiation, on va dire, biologique. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, vous voyez beaucoup de généalogie. Parce que le Juif est obligé de justifier sa lignée jusqu'à Abraham pour espérer être sous la promesse faite en Abraham, donc au patriarche. Et c'est très sérieux pour eux. Et l'apôtre Paul dit, alors vous qui n'êtes pas juifs, qu'on appelle les goïnes, les nations, que en plus, on vous a mis un autre surnom qui s'appelle les incirconcis, parce qu'il y avait ce symbole avec Abraham où tous les mâles nés juifs sont circoncis de leur prépuce le huitième jour, ça s'appelle le signe de l'alliance. Donc tous ceux qui ne sont pas de cette lignée-là et qui n'ont pas ce rite-là sont appelés incirconcis. Et l'apôtre Paul est ironique, il dit oui, c'est un rite humain qui est fait par des hommes, mais il y en a qui s'en glorifient. Et Jésus va être confronté à ça pendant son ministère. Beaucoup de fois d'ailleurs. Et Jésus, malheureusement, je dis des choses un peu particulières ce matin, c'est un mauvais juif. C'est un mauvais juif. Il suffit juste de regarder sa généalogie. Dans sa généalogie, dans ses ascendants, il y a des non-juifs. S'il était au temps du retour de la captivité, on l'aurait mis de côté. Parce qu'il serait appelé métis. Et les métis ne sont pas des vrais juifs. Parce que dans sa descendance, il y a deux personnes qui sont citées. En plus, c'est des femmes. Ce qui était rare dans une généalogie. Il y a Rab qui est cité. Et il y a Ruth qui est cité. Rab vient de Jéricho. Et Ruth, c'est une Moabite. Il est un mauvais juif. Il est un mauvais juif. Ça nous dit quelque chose déjà sur la pensée de Dieu. Et ça doit corriger certaines choses dans nos pensées à nous aussi, les frères et sœurs. Dans cette perception, et c'est ce que l'apôtre Paul va essayer d'expliquer, tous ceux qui n'étaient pas biologiquement liés à des ascendants juifs étaient traités d'incirconcis, donc qui n'avaient pas accès à tous les privilèges du peuple de Dieu, même s'ils aimaient le Seigneur. Ça a été le cas de quelqu'un qu'on appelle Corneille. Qu'on lit son histoire dans Actes chapitre 10. On dit que c'était un craignant Dieu et tout le monde connaissait sa piété, mais les Juifs ne le considéraient pas comme un vrai croyant. Jusqu'à ce que lui reçoive une révélation d'un ange qui vienne lui parler et qui lui a dit, mais toutes les prières que tu faisais, en fait, ça arrivait à Dieu. Or, dans la conception d'un bon Juif, il n'y a que eux la prière, en tout cas dans l'Ancien Testament, qui monte à Dieu. Et l'ange dit, toi tes prières montent à Dieu parce que Dieu connaît ton cœur. Et il est venu pour maintenant te faire rentrer dans son peuple. L'apôtre Pierre a eu du mal à faire accepter Corneille dans le peuple de Dieu. Il a dû défendre cela, même parmi les apôtres à Jérusalem, il a dû défendre que Corneille est un vrai enfant de Dieu. Et il va faire cette grande déclaration, car je sais maintenant que dans tout le monde entier, tous ceux qui craignent Dieu sont enfants de Dieu. Waouh! C'était une révolution. Actes chapitre 10, c'est un acte majeur dans la compréhension de l'Église. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y encore. Il va dire, c'est terrible parce que ceux qui sont sans Dieu, donc les nations, les non-juifs, quelle misère. Le tableau, il est sombre. Le tableau, il est sombre pour ceux-là. Il est trop sombre. Il est trop sombre. Il va dire, car déjà, ils sont sans Messie. Ils sont sans Messie, donc il n'y a aucun espoir d'être sauvés. Ils sont sans Christ, parce que le seul qui est capable de le faire, c'est le Messie. Ils sont sans Christ, ils sont sans Messie. Or, dans la pensée de l'Ancien Testament, le Messie est le seul capable d'accomplir totalement toutes les promesses faites en Abraham. C'est pour ça que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Il dit, les non-juifs, en fait, ils sont sans Christ, donc ils n'ont pas cette espérance. Et dit encore, Seigneur, que tu nous aides, ils sont privés de droit de cité en Israël, puisque c'est Israël qui est considéré dans cette conception-là comme les seuls vrais héritiers de ce royaume. Donc ils sont disqualifiés. Ils sont étrangers aux alliances de la promesse qui est faite en Abraham. Puisqu'ils ne sont pas descendants biologiques d'Abraham, donc ils sont disqualifiés, ils ne sont pas sous cette promesse-là. Et donc ils sont sans espérance, ils sont bien malheureux. Vous savez, être sans espérance, c'est être perdu à tout jamais. Si on est dans une situation précise et qu'on n'a pas l'espérance qu'on va en sortir, c'est triste, c'est tragique, c'est mortel. Il dit que c'était ça la situation des non-juifs. En tout cas, dans la pensée de ceux qui pensaient ça. Dans la pensée de ceux qui pensaient ça. Ils étaient sans Dieu. Et ici, cette expression rime avec notre mot aujourd'hui, ils étaient athées. Dans notre conception occidentale, le athée, c'est celui qui est sans Dieu. C'est faux. Le athée, c'est celui qui n'a pas le vrai Dieu. Parce que là, l'apôtre Paul parle à des gens qui ont une culture gréco-romaine. Or, dans la culture gréco-romaine, ils ont beaucoup de dieux. Ils ont plein de dieux. Ils ont un dieu pour tout. Il y a un dieu même qui est un leveur de coude, c'est-à-dire le dieu des soulas. Il s'appelle Bacchus. Donc, il ne peut pas dire qu'ils sont sans Dieu. Mais en fait, il dit, tant qu'on n'a pas le vrai Dieu, on est sans Dieu. On est sans Dieu. Et c'est terrible. C'est un message dur. Mais c'est un message qu'il faut proclamer. Il dit, ces gens-là, il dit, nous, qui sommes les non-juifs, voilà notre tableau, voilà ce que nous sommes. Et c'est ça que ceux qui sont juifs, dans cette période de l'histoire, croyaient fermement. Et c'est pour cela qu'il y a eu plein de soucis dans l'église primitive, où certains chrétiens d'origine juive disaient aux chrétiens d'origine non-juive, vous devez aussi faire comme nos traditions mosaïques. Ça a suscité ce qu'on appelle le premier concile, où tous les grands responsables des églises de l'époque se sont réunis à Actes chapitre 15 pour discuter de cette question. Faut-il que les non-juifs vivent aussi culturellement comme les juifs? Bref, que Dieu nous aide. Et c'est là que ça va basculer en Christ. Et c'est là que vous pouvez comprendre la pertinence, la profondeur du ministère de Jésus-Christ. À partir du verset 14. En Jésus-Christ, juifs et non-juifs sont un seul peuple. Alléluia. En Jésus-Christ, juifs et non-juifs sont un seul peuple. Mais il y a une condition pour faire partie de ce peuple. Ce n'est pas la filiation biologique. C'est la filiation en Christ. Jean, le chapitre 1er, le dit clairement. Car à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est ni de la volonté d'un homme, ni de la puissance de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Car à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le privilège et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Donc, ce n'est pas vraiment les siens. Et Jésus le dira. Il dit, car si vous étiez les vrais descendants d'Abraham, vous saurez qui je suis. Mais en fait, ce n'est pas vous les vrais descendants d'Abraham. Parce que Abraham, son nom, c'est le père de la foi. C'est ça son nom. En Jésus-Christ, le mur de la séparation a été détruit. En Jésus-Christ, le mur de la séparation a été détruit. Son sang coulé à la croix, quand on dit son sang, c'est pas comme si c'est un fleuve de sang qui a coulé. Faut pas exagérer non plus. Il est mort, mais le sang, c'est la vie. C'est-à-dire sa vie qu'il a donnée à la croix a rapproché désormais, qu'on soit juif ou non juif, ça nous rapproche de Dieu. C'est ça la vérité. Si tu es juif, que tu te rapproches pas de Jésus-Christ, tu n'es pas dans le peuple de Dieu. Si tu es non juif, que tu te rapproches de Jésus-Christ, tu es dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, désormais, c'est en Christ Jésus. Qu'on soit juif ou non juif. C'est ça le peuple de Dieu. Et c'est le seul peuple qui existe depuis l'avènement de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux peuples de Dieu, les bien-aimés. Il n'y a pas deux peuples de Dieu. Il y a un seul peuple de Dieu. Il va le dire dans ce texte. Car il y a un seul corps. Un seul corps. Il y a un seul corps. Il n'y en a pas deux. C'est en Jésus-Christ. Par sa mort, Jésus a abattu non seulement le mur qui séparait spirituellement les juifs et les non-juifs, mais encore, il a abattu la barrière de toutes sortes de divisions humaines. Le texte dit qu'il est notre paix. C'est lui qui a réconcilié tout avec Dieu. Alléluia. L'inimitié qui était là a été abolie, parce que c'est une inimitié, c'est-à-dire c'est un, il y avait comme une confrontation perpétuelle entre juifs et non-juifs. Et on le voit aujourd'hui encore. Et je ferme ma parenthèse. Mais on dit Jésus qu'il est venu, il a abattu ça, il a détruit ce mur d'inimitié. Et la preuve qu'il a fait ça, c'est lorsqu'il est mort à la croix, la Bible dit que dans le temple de Jérusalem, le grand rideau qui séparait le lieu très saint a été fondu en deux. C'était une infamie pour un juif. Parce que ce qui s'est passé là, c'est une infamie. Mais désormais, cette mort disait, ce lieu il est accessible à tous ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Amen. Et pas juste à quelques initiés. Et pas juste à quelques privilégiés. Jean 3, 16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Et le quiconque, dans ce texte, il est extra large. Il est extra large. Il prend en compte tous ceux qui sont des humains. Tous les humains, où qu'on soit, qui qu'on soit, on fait partie de ce quiconque. Il a abattu le mur de l'inimitié. Il a tout réconcilié avec Dieu en sa mort. C'est pour ça que la croix, cette croix-là, ça c'est le symbole. Mais derrière ce symbole, c'est là que Dieu a remporté la victoire. Jésus l'avait déjà dit, mais les juifs de son époque ne l'avaient pas compris. Il a été obligé de leur expliquer. Et les apôtres ont réexpliqué ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit qu'il allait construire son église. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Il avait dit que ça exigerait un nouveau fondement que le fondement que les juifs croyaient jusque-là. Parce que pour les juifs, ce fondement du peuple était dans la nature biologique, dans la lignée biologique. Non. Et Pierre va expliquer. Et Jésus va dire, même Satan ne pourra pas prévaloir contre l'Église. Même Satan ne pourra pas prévaloir contre l'Église. Même le séjour des morts ne pourra pas prévaloir contre l'Église. Quelle grâce de faire partie de ce peuple de Dieu. L'Église est désormais le seul et unique peuple de Dieu. Et cette Église est conçue pour proclamer les merveilles de Dieu. Ce Dieu qui a appelé chaque personne à sortir de ses ténèbres pour venir à son admirable lumière. N'est-ce pas? Car la lumière, lui, dans les ténèbres. Il dit, ô toi, peuple qui était envahi de tellement d'obscurité ténébreuse, la lumière à lui, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Désormais, en Jésus-Christ, tous ont accès à Dieu. Tous, sans exception. il n'y a plus de privilégiés. Il n'y a que ceux qui sont en Jésus-Christ qui sont des privilégiés. Et le texte dit, on ne mérite même pas. C'est par grâce que vous êtes sauvés et cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu. On n'a même pas de mérite d'être là. On n'a aucun mérite. On a une grâce. Bien-aimé, réalise que tu as une grâce. Parmi les 7 milliards d'habitants, tu as eu la grâce de répondre oui à Dieu. C'est une grâce qu'il faut que tu chérisses, qu'il faut que tu gardes. C'est une grâce. Quand je vais dans les centres commerciaux, je suis toujours... Mon esprit est embrouillé. Je vois tous ces gens apparemment heureux, mais ils sont sans Dieu. Ils sont sans Christ. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Rien. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je vais être reconnaissant à ce Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si c'est cette grâce qui t'a touché, sois conséquent dans ta vie chrétienne. Soyons conséquents dans nos vies chrétiennes. Soyons conséquents dans nos vies d'église. Soyons conséquents, les bien-aimés. Il dit, à cause de cet appel qui vous a été adressé, vivez d'une manière digne de cet appel. Car vous êtes des privilégiés. C'est pas vous, mais c'est Dieu. C'est pas vous, mais c'est Dieu. C'est pas vous, mais c'est Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Maintenant, l'Église, nous sommes des concitoyens du royaume de Dieu. Alléluia. On a tous des passeports. C'est estampillé royaume de Dieu. Nous sommes des concitoyens du royaume de Dieu. Ça appelle des droits, mais ça appelle des devoirs. Un citoyen est censé être protégé par des droits, par son état, mais il est censé avoir des devoirs pour que cet état puisse aussi prospérer. Dieu compte sur nous désormais. Dieu nous a enrôlés dans son royaume, il compte sur toi. Il compte sur toi, il compte sur moi. C'est pour ça que Christ va dire, nous sommes co-ouvriers avec lui. Lui, il a fait sa part en tant qu'homme. Il est remonté. Il nous a laissé notre part. Nous sommes tous concitoyens de ce royaume. C'est à nous de nous en charger par la grâce de Dieu avec son esprit qui nous aide. Il dit, nous sommes de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas simplement des citoyens avec des droits et des devoirs. Nous sommes dans une filiation familiale avec Dieu. Waouh! Et c'est pour cela qu'il a dit, si vous priez, dites désormais, notre Père qui est au ciel. Parce que Dieu est devenu votre Père. Dieu est devenu notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Amen. Chaque personne est une pierre vivante. C'est-à-dire que désormais, quand Dieu pense à la construction de son royaume, il a besoin de toi. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Chacun de nous est une pierre pour que cet édifice continue d'être construit jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Chacun de nous. Nous avons besoin de regarder ces choses. L'apôtre Pierre va parler de ces choses en expliquant que ce n'était pas nouveau, que c'était déjà dans l'Ancien Testament. Il va parler du psaume 118 où il va expliquer, c'est un psaume du roi. Il va dire, ce psaume parlait déjà de cette affaire. Il va repartir avec Ésaïe 28, où il va expliquer qu'Ésaïe 28 disait déjà que ce n'était pas exclusivement pour les Juifs, c'était pour toutes les nations. Il va reparler de ça avec Ésaïe 8 aussi. Pourquoi je vous dis tout ça, les bien-aimés? Pour que nous puissions nous recentrer. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes des enfants de paix. Parce que Jésus est notre paix. C'est lui qui est le maître de la réconciliation. Il est venu pour unir ceux qui étaient ennemis. Il est venu pour abolir le mur de la séparation. Il est venu pour construire une nouvelle humanité. Et il dira dans les béatitudes, dans l'évangile de Matthieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils du Très-Haut. Ils seront appelés fils du Très-Haut. Je prie avec ces quelques mots qui sont là. Oui, c'est ça ma prière. Nous savons que chaque chrétien en lui-même est lui-même un sanctuaire dans lequel le Saint-Esprit a établi sa demeure. Un sanctuaire, c'est là où on... Un sanctuaire, c'est là où Dieu a accès, où il peut avoir accès avec. Un sanctuaire, c'est un lieu gardé, un lieu protégé, où on ne fait qu'une seule chose. Mais chaque assemblée est aussi un temple de Dieu. Église de Créteil, je ne sais pas toi qui nous visites ce matin, l'église là où tu es un temple de Dieu. Et je ne sais pas si nous réalisons ce que nous sommes en fait en tant qu'église locale. Nous sommes précieux dans le plan de Dieu pour le monde. Nous sommes précieux pour le plan de Dieu pour le monde. Nous sommes précieux dans la vision de Dieu pour le monde. C'est pour ça que l'ennemi le sait trop bien, que son travail c'est de diviser les églises, de les affaiblir et parfois de les faire disparaître des villes. Et il réussit beaucoup de fois à le faire. Il réussit beaucoup de fois parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Prions maintenant. Je veux qu'on ait ce temps de prière et je veux inviter le groupe de louanges à chanter le dernier cantique qu'ils ont interprété tout à l'heure et que pendant ce cantique, que chacun de nous puisse vraiment demander au Saint-Esprit de le visiter. Pour que notre position nouvelle en Christ soit une position puissante, forte. Je prie que chacun ait reçu quelque chose dans ce message de ce matin. Que tu n'es pas chrétien pour rien. Tu n'es pas chrétien par hasard. Tu es chrétien parce que Dieu l'a voulu et il y a une bonne raison pour laquelle tu appartiens à cette communauté. Tu fais partie du peuple de Dieu et c'est le peuple de Dieu qui construit le royaume de Dieu. Dans ta vie personnelle, dans ta vie de famille, dans ta vie sociale, dans cette vie d'église, on a un défi, c'est d'être de ceux qui honorent le Dieu qui nous a fait tant de bien. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils et des filles de paix. Soignons cette société nouvelle, cette maison de Dieu qui travaille à la paix, et dans nos familles, et dans nos cœurs, et dans le monde, au nom de Jésus. Venez, venez chanter avec nous. Pendant que vous chantez, tous ceux qui peuvent se tenir debout, tenez-vous debout. Nous voulons prier au Seigneur. Venez dans nos cœurs avec ce chant pour sonore. Demandez à Dieu sa grâce sur vous, sur vos familles, sur l'église de Dieu. Que le Seigneur puisse nous visiter à nouveau, nous réveiller à nouveau et nous donner d'être fiers.
Alléluia.
De ce privilège.